Vous écoutez, on lit pour vous.
Qu'est-ce que la manosphère et pourquoi devrions-nous nous en inquiéter? Un texte de la rédaction paru le 15 mai 2025 sur le site ONU Femmes. La misogynie en ligne progresse dans les cours d'école, les lieux de travail et les relations intimes. Découvrez les origines de ce phénomène ainsi que ses mécanismes de diffusion. Comptant plus de 5,5 milliards d'internautes et quasiment autant d'utilisateurs des réseaux sociaux, les espaces numériques occupent désormais une place centrale dans la manière dont nous apprenons et tissons des liens. Cependant, malgré ses atouts, Internet est aussi un vecteur de discours haineux, de harcèlement et de misogynie. Une part croissante de l'espace numérique est désormais investie par ce que l'on désigne sous le terme de « manosphère ». Ce réseau informel de communautés prétend affronter les difficultés rencontrées par les hommes, qu'il s'agisse de relations amoureuses, de conditions physiques ou de paternité, mais il promeut fréquemment des conseils et des attitudes préjudiciables, voire pires. Comme le souligne le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes et des filles, ces groupes se rassemblent autour d'une hostilité commune à l'égard du féminisme et véhiculent une représentation des hommes en tant que victimes du contexte sociétal actuel. Qui plus est, ce type de contenu gagne du terrain. D'après la Movember Foundation, organisation de référence en matière de santé masculine et partenaire d'ONU Femmes, près de 2 jeunes hommes sur 3 sont régulièrement exposés à des contenus diffusés par des influenceurs de la masculinité sur Internet. Les experts observent que la banalisation d'un discours extrême au sein de la manosphère contribue non seulement à banaliser la violence à l'égard des femmes et des filles, mais entretient également des liens de plus en plus étroits avec la radicalisation et les idéologies extrémistes. ONU Femmes et ses partenaires prennent des mesures pour lutter contre la misogynie en ligne et le harcèlement en ligne. À travers la recherche, des politiques publiques, le soutien aux survivantes ainsi que des programmes et campagnes visant à déconstruire la masculinité toxique, nous œuvrons pour faire des espaces numériques des lieux plus sûrs et plus égalitaires pour toutes et tous. Qu'est-ce que la manosphère? Le terme « manosphère » désigne l'ensemble des communautés en ligne qui promeuvent de façon croissante des conceptions rigides et hostiles de la masculinité, tout en véhiculant l'idée fausse selon laquelle le féminisme et l'égalité des sexes se seraient construits au détriment des droits des hommes. Ces communautés valorisent le contrôle des émotions, la réussite matérielle, l'apparence physique et la domination, surtout envers les femmes, comme autant de critères qui définissent la valeur d'un homme. La manosphère cible des publics masculins sur les réseaux sociaux, les podcasts, les communautés de jeux vidéo, les applications de rencontres et la quasi-totalité des espaces numériques. Il génère de nombreux échanges entre des participants en quête d'espace où s'exprimer librement ou approfondir leur compréhension des enjeux masculins. Bien que leur contenu semble axé autour du développement personnel masculin, nombre de ces groupes encouragent des comportements toxiques, incitant garçons et hommes à s'affirmer en dénigrant autrui. Les raisons de l'attrait de la manosphère chez les jeunes hommes sur Internet. Les contenus radicaux de la manosphère connaissent un succès croissant, en particulier auprès des jeunes hommes qui se sentent isolés. Selon le rapport State of American Men 2023 d'Equimundo, groupe de recherche partenaire d'ONU Femmes, 2/3 des jeunes hommes ont le sentiment que « personne ne me connaît vraiment ». En réalité, il est tout à fait naturel de chercher à nouer des liens au sein de communautés dans ces espaces numériques. Nous sommes nombreux à trouver en ligne un espace propice à l'affirmation de notre identité, à l'épanouissement de nos intérêts et à la rencontre de personnes qui partagent nos convictions. Dans leur quête de conseils sur la forme physique, les relations amoureuses ou la crypto-monnaie sur Internet, il est fréquent que les jeunes hommes croisent la route d'influenceurs issus de la manosphère. Dans l'enquête de la Fondation Movember, beaucoup disent trouver ce type de contenu divertissant ou motivant. Les coachs autoproclamés de la manosphère séduisent les jeunes hommes en affirmant leur transmettre les clés de la responsabilité individuelle. Or, paradoxalement, au lieu de promouvoir une introspection qui permettrait d'aller au cœur des difficultés rencontrées par les hommes, ces discours véhiculent l'idée que les hommes seraient avant tout victimes de misandrie, c'est-à-dire de préjugés systématiques à leur encontre dans la société. Comme le souligne le rapport du secrétaire général de l'ONU, l'essor de la manosphère s'accompagne d'une montée du conservatisme chez les jeunes hommes qui perçoivent les initiatives en faveur de l'égalité des femmes comme discriminatoires à l'égard des hommes. Selon une étude menée par ONU Femmes et l'organisation Unstereotype Alliance, les jeunes hommes sont plus enclins que leurs aînés à adopter des visions stéréotypées des rôles liés au genre. Vous écoutez « Qu'est-ce que la manosphère et pourquoi devrions-nous nous en inquiéter? » Un texte de la rédaction paru le 15 mai 2025 sur le site ONU Femmes. Idéologie de la manosphère. Comment la manosphère dépeint les femmes? Bien que les groupes qui composent la manosphère n'adhèrent pas tous aux mêmes convictions, beaucoup se retrouvent dans leur misogynie, marqué par des préjugés et un ressentiment profond à l'égard des femmes et des filles. À bien des égards, la manosphère s'inscrit dans la continuité d'une longue tradition de mouvements antiféministes. Ces grands groupes de la manosphère véhiculent des représentations erronées, des pseudo-sciences et des contre-vérités fondées sur le genre. Les célibataires involontaires, incels, ils sont convaincus que les hommes ont un droit légitime à des rapports sexuels et que les femmes les en privent intentionnellement. La culture incel extrémiste encourage le viol et les coups et blessures et se greffe à d'autres idéologies, telles que le racisme et l'homophobie. Les incels ont été associés à des actes de violence de masse. Les MRA, de l'anglais Men's Rights Activists. Ces militants pour les droits des hommes adoptent fréquemment un ton académique pour soutenir que le féminisme et les droits accordés aux femmes, le droit de vote, l'accès à l'éducation ou aux postes de direction, auraient désavantagé les hommes. Les partisans du mouvement MRA affirment que la société est gynocentrique, autrement dit qu'elle est dominée par les intérêts des femmes. Les PUA, de l'anglais « pick-up artists ». Ils apprennent à leurs adeptes comment contraindre les femmes à avoir des relations sexuelles, tout en tournant en dérision la notion de consentement. Le mouvement MGTOW, « Men Going Their Own Way ». Ce mouvement, qui peut se traduire par « hommes qui suivent leur propre voie », soutient l'idée que tout dans la société est structurellement inéquitable pour les hommes, et préconise d'éviter non seulement les femmes, mais aussi la société dominante dans son ensemble. Voici d'autres exemples de discours haineux fondés sur le genre que l'on retrouve dans la manosphère. Théorie de la pilule rouge ou prendre une « red pill ». Cette idéologie désigne l'action d'ouvrir les yeux à la réalité selon laquelle le monde favorise les femmes par rapport aux hommes. En référence au film « The Matrix », cela suggère que les personnes qui ne sont pas d'accord ont pris la pilule bleue. À Walt, « All women are like that ». En français, « Toutes les femmes sont comme ça », terme utilisé pour stéréotyper les femmes. Fémoïde ou FHO, « Female Humanoid Organism », en français, « Organisme humanoïde féminin », est un terme péjoratif qui vise à suggérer que les femmes sont non seulement moins que les hommes, mais aussi moins qu'humaines. Hypergame, terme péjoratif employé pour qualifier les femmes obsédées par l'idée d'épouser des hommes perçus comme étant d'un statut supérieur à elles, tant sur le plan physique que financier. Impact dans le monde réel. Comment les stéréotypes de genre font du tort à tout le monde? Dans la manosphère, personne n'en sort gagnant. La misogynie et les inégalités entre les sexes portent préjudice aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Lors de son analyse de données mondiales, Equimundo observe que les hommes aux attitudes de genre rigides sont davantage enclins à adopter des comportements néfastes, comme la prise de risque et la toxicomanie. Ils sont également plus enclins à la dépression et à des pensées suicidaires. Les stéréotypes de genre à l'égard des hommes véhiculés dans la manosphère constituent un cercle vicieux. Lorsque les garçons et les hommes ne sont pas encouragés à exprimer ouvertement leurs émotions ou leurs difficultés, ils peuvent se tourner vers ces communautés en ligne pour y chercher des conseils sur des sujets tels que les problèmes de relations amoureuses, la paternité, l'anxiété ou la santé sexuelle. L'enquête menée par Movember a révélé que les jeunes hommes qui interagissent directement avec des influenceurs de la masculinité font état d'un sentiment accru d'inutilité et d'anxiété, sont davantage enclins à consommer des compléments pour améliorer leur performance et à poursuivre l'entraînement malgré des blessures, sont moins susceptibles de donner la priorité à leur santé mentale, accordent davantage d'importance à la richesse matérielle et à la popularité parmi leurs amis masculins. Les stéréotypes véhiculés à l'égard des femmes dans la manosphère entretiennent des idées fausses et des rapports de domination qui entravent leur épanouissement. Une enquête internationale à l'appui de He for She, une initiative de solidarité d'ONU Femmes en faveur de l'égalité des sexes, montre que la génération Z est la plus exposée à la rhétorique sexiste en ligne. Dans le même temps, les jeunes hommes d'aujourd'hui sont plus enclins à adopter des conceptions rétrogrades des rôles liés au genre que leurs aînés masculins, recul qui pourrait remettre en cause les avancées durement acquises en matière d'égalité des sexes. Risque de la manosphère et de la misogynie en ligne, ce que révèlent les données. Diffusion d'une mésinformation néfaste. Selon Equimundo, 40% des hommes américains adultes interrogés et la moitié des hommes plus jeunes déclarent accorder leur confiance à une ou plusieurs figures du mouvement des droits des hommes ou à des voix antiféministes ou pro-violence issues de la manosphère. Perception de la sécurité dans l'espace numérique. He for She constate que la majorité des hommes, 69%, et des femmes, 72%, sont préoccupés par la rhétorique sexiste qu'ils, elles, voient sur les réseaux sociaux. Risque de violence en ligne. Une étude mondiale révèle que 58% des filles et des jeunes femmes ont déjà été victimes de harcèlement en ligne, sous une forme ou une autre. Risque de radicalisation. Certains hommes et garçons qui fréquentent les forums de la manosphère éprouvent un sentiment d'aliénation vis-à-vis de la société dominante. Même si relativement peu d'utilisateurs s'engagent dans une spirale de contenu toujours plus extrémiste, les recherches de l'ISD, Institute for Strategic Dialogue, indiquent qu'une telle trajectoire existe bel et bien. ONU Femmes et Equimundo analysent les liens entre misogynie en ligne et radicalisation, de sorte que nous puissions mieux comprendre ces risques et prévenir la violence à l'égard des femmes. Ces travaux, dans le cadre du programme ACT pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes, reçoivent le soutien généreux du gouvernement islandais et de l'Union européenne. Quelles sont les prochaines étapes? Maintenant que vous comprenez mieux ce qu'est la manosphère et son impact sur les adolescents, les hommes et les femmes, la deuxième partie de cet explicatif vous présente des pistes concrètes pour contrer ces idéologies extrêmes et la masculinité toxique qu'elles promeut. La deuxième partie de cet explicatif intitulé « Comment contrer l'influence toxique de la manosphère » est présentée dans un article séparé. C'était Qu'est-ce que la manosphère et pourquoi devrions-nous nous en inquiéter? Un texte de la rédaction paru le 15 mai 2025 sur le site ONU Femmes.
Le Canada grossit, l'espoir maigrit. un texte de Sylvain Charlebois, paru le 17 juillet 2025 dans La Presse. Le Canada prend du poids, non pas par excès de choix, mais par manque d'options saines et abordables, un vide que l'industrie pharmaceutique semble désormais combler. C'est confirmé. Depuis la pandémie, les Canadiens sont plus gros. Ce n'est pas une surprise, mais une nouvelle étude du Journal de l'Association médicale canadienne, JAMC, vient mettre des chiffres sur ce que plusieurs soupçonnaient déjà. Avant 2020, l'obésité progressait lentement au pays. Mais depuis avril 2020, le rythme s'est accéléré. Aujourd'hui, un adulte sur trois vit avec l'obésité. Un sur trois. Le nouveau guide alimentaire canadien a été publié en 2019, il y a 6 ans. Depuis, jamais les Canadiens n'ont été aussi gros. Soit le guide n'était pas à l'épreuve d'une pandémie, soit peu l'ont vraiment suivi. Bref, cette donnée, 1 sur 3, est lourde de conséquences, car l'obésité augmente les risques de diabète de type 2, de maladies cardiaques et de certains cancers. Alors que le nombre de cas augmente, on doit élargir la discussion. Oui, les soins médicaux sont essentiels, mais l'accès à une alimentation saine et abordable est tout aussi fondamental. Ce qui suscite aussi l'inquiétude, c'est que cette hausse touche particulièrement les femmes et les jeunes adultes, deux groupes qui étaient auparavant moins affectés. Le confinement, le stress, la perte de repères et une plus grande sédentarité ont de toute évidence laissé des traces. Et surtout, notre façon de manger a changé. Plus d'aliments ultra-transformés, plus de grignotage, moins de repas équilibrés. À tout cela s'est ajoutée la flambée des prix en 2022, causée en partie par l'invasion russe de l'Ukraine. L'inflation a mis à rude épreuve le budget des ménages. Résultat, beaucoup de gens ont dû faire des choix alimentaires moins sains, tout simplement parce que les produits plus nutritifs sont devenus inabordables pour plusieurs familles. Dans ce contexte, le traditionnel message « bougez plus, mangez mieux » ne suffit plus. Il faut créer un environnement qui facilite les bons choix, pas seulement culpabiliser les gens. Pour les entreprises alimentaires, la situation est délicate. D'un côté, elles essaient de proposer des produits plus sains. De l'autre, plusieurs marques populaires commencent à perdre de leur éclat. Le cas de Kellanova, anciennement Kellogg, le montre bien. Des produits comme Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts ou Eggo ne pourront pas survivre encore longtemps sans revoir leurs recettes. Les Canadiens veulent des ingrédients simples, de la transparence et un minimum de crédibilité nutritionnelle, même pour les collations. Kraft Heinz semble vouloir suivre cette tendance en séparant certaines divisions pour mieux valoriser les marques qui fonctionnent encore et se départir de celles qui peinent à s'adapter. Le virage santé n'est plus une option, c'est une condition pour rester dans la course. Mais au-delà des produits eux-mêmes, c'est l'approche marketing de l'industrie agroalimentaire qui doit être repensée. Pendant des décennies, les marques ont misé sur l'achat impulsif, couleurs vives, placements stratégiques, slogans accrocheurs et effets de nouveauté. Ce modèle montre aujourd'hui ses limites. L'étude du JAMC le suggère, la consommation émotionnelle et non planifiée a contribué à la montée de l'obésité. Désormais, les Canadiens souhaitent reprendre le contrôle, planifier leur repas, comprendre ce qu'ils mangent. Les entreprises devront donc passer d'un marketing fondé sur l'impulsion à un marketing fondé sur l'intention, et c'est un changement majeur. Pendant ce temps, l'industrie pharmaceutique entre en scène. En 2023, environ 1 million de Canadiens utilisaient déjà des médicaments comme l'Ozempic, conçu pour traiter le diabète, mais désormais largement prescrit pour la perte de poids. Et la tendance s'accélère. On estime que près de 2 millions de Canadiens pourraient être sous traitement avec un médicament de type GLP-1, régulation de la glycémie et de l'appétit, d'ici 2030. Ces traitements sont coûteux. Plus de 660 millions de dollars ont déjà été couverts par les régimes publics pour l'Ozempic seulement. Cela montre à quel point la médecine prend maintenant le relais là où notre système alimentaire échoue. En somme, ce n'est pas qu'un enjeu de santé publique. C'est un signal clair, notre façon de produire, de transformer, de promouvoir et de vendre les aliments doit changer. Sinon, ce ne sont pas les supermarchés qui s'adapteront, mais les pharmaciens, à nos frais. C'était « Le Canada grossit, l'espoir maigrit ». Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 17 juillet 2025 dans La Presse.
Légionellose et climatisation. Comment réduire le risque? Un texte de Sacha Israël, paru le 8 septembre 2025 dans Québec Science. En période de canicule, la climatisation est essentielle, notamment dans les hôpitaux, les CHSLD ou les centres commerciaux. Pourtant, les systèmes de climatisation et de distribution d'eau peuvent poser un risque de légionellose, une maladie pulmonaire grave. En août dernier, une épidémie de légionellose dans le quartier de Harlem à New York a causé la mort de 7 personnes. Au total, 114 cas ont été confirmés, dont 90 hospitalisés. Simultanément, à London, en Ontario, la bactérie tuait 4 personnes et en envoyait 90 à l'hôpital. En cause, des systèmes de climatisation d'immeubles dans lesquels la bactérie se développe. Qu'est-ce que la légionellose? C'est une infection des poumons potentiellement mortelle causée par la bactérie Legionella qui se transmet par l'inhalation de fines gouttelettes d'eau contaminée. La bactérie prolifère dans les réseaux d'eau chaude, les spas et certains systèmes d'air climatisé. Les tours de refroidissement à eau, en particulier, sont des sources fréquentes de prolifération, comme l'explique la docteure Caroline Huot, médecin en santé environnementale à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Ces tours permettent d'évacuer la chaleur issue des systèmes de climatisation en faisant circuler de l'eau chaude en gouttelettes dans un flux d'air. Ces tours situées sur les toits projettent des aérosols qui peuvent être inhalés par les personnes qui circulent autour du bâtiment, explique Caroline Huot. Elle précise que certaines personnes présentent un risque accru de contracter la légionellose, notamment celles atteintes de diabète et autres maladies chroniques, de pathologies cardiaques ou de cancer. Le taux de mortalité de la légionellose se situe entre 5 et 10 % selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mais il peut grimper entre 40 et 80 % pour les personnes immunodéprimées. Les changements climatiques augmentent les risques. Depuis 20 ans, le nombre de cas de légionellose est en augmentation. Outre la surveillance accrue et les meilleurs diagnostics, cette hausse s'explique en partie par le recours de plus en plus généralisé à la climatisation pendant de plus longues périodes. Une étude du Centre de collaboration nationale en santé environnementale, CCNSE, parue en 2022, met en lumière un lien étroit entre la hausse des cas de légionellose et la fréquence accrue des épisodes de chaleur extrême. L'organisme avertit aussi sur les risques liés aux solutions de rafraîchissement extérieur, comme les zones de brumisation, les aires de jeux d'eau et les piscines dans les villes en été. Un entretien plus strict. En 2012, la Ville de Québec avait elle aussi recensé 181 personnes malades, dont 13 décès. Suite à cela, une réglementation de la Régie du bâtiment avait été mise en place en 2014 afin d'obliger les propriétaires de tours de refroidissement à élaborer un plan d'entretien avec des compagnies expertes. Celui-ci doit notamment inclure le nettoyage, la désinfection et des prélèvements d'eau mensuels pour la détection de la bactérie. La compagnie Nortec Air Solutions, par exemple, conçoit des systèmes modulaires de traitement de l'air pour les grands bâtiments. Elle propose plusieurs solutions afin de minimiser les risques de pathogènes, comme l'explique l'un de ses ingénieurs, Lucas Chavanel-Pritlou. Entre autres, une filtration avancée pour éliminer les poussières et particules polluantes, des systèmes étanches, mais aussi des unités lavables afin d'éviter l'accumulation d'eau stagnante où se développe la légionellose. On utilise de plus en plus la lampe UV dans les endroits très critiques, notamment dans les hôpitaux ou les laboratoires pharmaceutiques. Elle émet des rayons UV qui tuent les bactéries dans l'air, ajoute-t-il, précisant qu'il y a eu une prise de conscience sur ces questions depuis la COVID-19. C'était Légionellose et climatisation. Comment réduire le risque? Un texte de Sacha Israël, paru le 8 septembre 2025 dans Québec Science.